Alouette.
Une histoire absolument extraordinaire aujourd'hui. L'histoire d'un homme qui est en face de moi qui s'appelle Jacques-Michel Huret. Bonjour Jacques-Michel.
Bonjour.
Et aussi l'histoire de votre femme d'ailleurs, Martine. Bonjour Martine.
Bonjour.
Cette histoire, Jacques-Michel, vous l'avez racontée dans un livre paru il y a quelques années chez Michel Lafond. J'ai oublié 30 ans de ma vie. Vous êtes amnésique des 30 premières années de votre vie. Vous avez espéré pendant longtemps que ça revienne, et ça n'est pas revenu. Et donc, à 30 ans, vous avez dû reconstruire une nouvelle vie sans aucun souvenir de la première. Et vous l'avez fait avec la même femme, avec vous, Martine. Et si j'ai bien compris, vous n'êtes pas loin de penser, Martine, qu'il a été un meilleur mari dans sa deuxième vie que dans sa première vie. Voici cette histoire qui commence le jour où vous vous retrouvez sans aucun souvenir du passé. C'était en juin 1987, une histoire que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
J'ouvre les yeux, je reconnais rien. Je suis sur un banc, sur une place pleine de monde. Il y a une fontaine, un abribus, une cabine téléphonique. Qu'est-ce que je fais là? Rien, absolument rien ne me revient. Je tente de lancer ma mémoire en arrière, je ne me rappelle ni de mon nom, ni de mon prénom. Je ne sais pas quoi faire. Qui suis-je? Je regarde un film? Je suis pas dedans. Cette scène absolument hallucinante se déroule fin juin 1987, place de l'Opéra, à Paris. Un homme est assis sur un banc, il a oublié qui il est. Tiens, il a une alliance. Une alliance, il sait ce que c'est. Il se dit, donc j'ai une femme. Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il lève la tête, et tout d'un coup, il reconnaît l'Opéra de Paris. Il se souvient de l'Opéra, mais pas de son propre nom. Ensuite, il se regarde. Il porte un manteau rouge, il fouille ses poches, il y a 60 francs dans l'une des poches. Il regarde ses pieds, il porte des chaussons dans la rue. Et ça aussi, il sait que ça ne se fait pas, porter des chaussons dehors, comme ça. Mais il ne sait pas comment il s'appelle. Et là, deux mots lui viennent spontanément à l'esprit. Beaubourg et la Seine. Il sait ce que c'est. Beaubourg, c'est un bâtiment plein de tuyaux. Et la Seine, c'est un fleuve qui traverse Paris. Il sait ça. Mais il ne sait pas ce qu'il fait là, ni comment il s'appelle. Sur le banc près de lui, il y a un sac plastique. Il l'ouvre. Dedans, il y a une cordelette, un ticket de métro, un jeu de tarot, un crayon mâchouillé, un carnet et une carte de Paris. Tiens, une carte de Paris. Donc je ne suis pas parisien. Il attend un peu, 5 minutes peut-être, il ouvre le carnet, il sait lire. Mais il ne reconnaît rien de ce qui est écrit. Et étrangement, ça parle de Beaubourg et ça parle de la Seine. Il se lève, il déplie la carte, il regarde où est Beaubourg et il se met à marcher. Et il va à Beaubourg et il reconnaît l'endroit. À un moment, il a faim, il a 60 francs dans la poche. Il ne fait pas le lien. Il ne sait pas qu'avec cet argent, il peut s'acheter à manger. Et il revient d'où il est parti. Il revient place de l'Opéra. Il passe la nuit dans un parking au dernier sous-sol et il s'endort avec une peur terrible. Et si demain, j'oublie tout, encore une fois? Mais non, le lendemain, il se souvient de la veille, c'est déjà ça. À un moment donné, il est dans la cabine téléphonique, il dort. 3 policiers frappent à la vitre.
Contrôle d'identité.
Il est paniqué. Il bondit hors de la cabine, il bouscule le flic, il part en courant, il court, il slalome entre les voitures. Et là, il se planque sous une voiture, le policier le repère, il l'attrape par les chevilles, il lui colle un flingue sur le front.
Viens là, toi. Tu nous as fait courir, fumier.
La suite se passe au commissariat.
Qu'est-ce que tu faisais dans la cabine? Pourquoi t'as pris la fuite? Pourquoi tu t'es planqué, connard? T'es qui? Tu fais quoi? Et tes papiers, ils sont où?
Il ne sait pas quoi répondre.
Je sais pas qui je suis.
On lui tente un procès-verbal, mécaniquement il le signe, et là il réalise que sa signature est sans doute un bout de son identité, un bout qui lui est resté. Le lendemain, on l'emmène à l'hôpital Sainte-Anne, le plus grand hôpital psychiatrique de Paris. Et là il se dit, super, super, on va prendre soin de moi. Il va vite déchanter. Et là, on le déshabille et deux infirmiers l'examinent sous toutes ses coutures, à la recherche d'indices.
Appendicite ? Positif. Trace d'opération ? Cicatrice à la cheville droite. Des blessures ? Positif. Large bleu de la nuque à l'épaule.
Et à partir de là, un rituel s'installe. Déjeuner, médoc, goûter, médoc, dîner, médoc. À l'hôpital psychiatrique, on gobe des médocs. Est-ce que ça sert à quelque chose de bourrer un amnésique de médicaments? C'est une autre histoire. Et à chaque fois, on lui tend un verre d'eau sur lequel il est écrit « Monsieur X ». Dans le petit carnet qu'il a retrouvé dans le sac plastique sur le banc de l'opéra, il est écrit « N'oublie pas d'écrire ». Alors il s'accroche à ça. Ça devient son obsession, écrire. Il noircit des pages et des pages. Il raconte ses journées en détail. Et comme l'infirmier lui prend tout ce qu'il écrit, ensuite il se met à dessiner comme un dératé en se disant « On sait jamais. Peut-être que je vais dessiner ma maison ou ma femme. » Mais rien ne vient. Ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis le début, un médecin scrute ses écrits et ses dessins. Un matin, à 10h, on l'emmène dans son bureau. C'est un grand type barbu.
Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur C. Et je vais m'occuper de vous.
Ah ? C'est vous qui allez me dire ce que j'ai ? J'ai quoi ?
Vous êtes amnésique, monsieur.
Et comment ça m'est arrivé?
Vous êtes arrivé ici avec un bel hématome qui va de la nuque à l'épaule gauche, 20 cm sur 10 de large. Vous avez reçu un coup, manifestement, et ça peut expliquer votre amnésie.
Ah?
On va y arriver, monsieur. Ce sera dur, mais je serai là à vos côtés et on finira par savoir qui vous êtes, promis.
Dites, si je continue à écrire et à dessiner, on me les enlèvera plus?
Hein? D'accord.
Je peux arrêter les médicaments?
Hein? Ça non.
Mais les jours passent, les rendez-vous avec le docteur C s'enchaînent et rien n'émerge. Rien sauf une chose. Il paraît clair que Monsieur X a oublié tout ce qui est affectif. Il a oublié sa maison, ses amours, sa femme. Un jour, le médecin lui dit
« Je voudrais vous proposer une expérience. Elle est un peu douloureuse, elle est assez violente et inhabituelle. Mais est-ce que vous connaissez le pain total? Vous savez, on appelle ça le sérum de vérité. Ça va vous faire dormir, mais moi, ça va me permettre de vous accompagner dans votre esprit, d'entrer dans votre inconscient. » Vous seriez d'accord?
Bah, au point où j'en suis, moi je suis prêt à tout.
Très bien. On commence demain.
Au point où j'en suis, j'aurais accepté qu'on m'ouvre la tête sur toute sa longueur, qu'on me charcute le cerveau, qu'on le presse comme une éponge pour analyser ce qui en sortirait. Le docteur C lui fait signer des papiers. Il lui fait signer tout un dossier sur lequel est écrit « Narco-analyse par pain total ». et il oublie de lui dire que c'est une technique très controversée. Et donc le lendemain, on l'allonge sur un divan. Le docteur a promis de tout enregistrer. Il pose donc un magnétophone et il lui fait une piqûre. Je n'entends plus que la voix du docteur, qui me guide dans l'oubli, qui me rassure. Sa voix se fait plus lointaine. Mes paupières pèsent une tonne. Je flotte. Je flotte. Je flotte.
Monsieur X ! Monsieur X, réveillez-vous ! Il faut manger !
Ma tête est pleine de gravier. On croirait que je respire du coton. Je n'ai aucun souvenir de ma séance. Le lendemain, on lui fait passer le rapport écrit de cette séance. Ça n'a rien donné. Alors il faut recommencer. On recommence. Et à nouveau, c'est un échec. Il n'a rien lâché. Et là, c'est lui qui propose.
Allez, Doc. On se fait un dernier voyage, ok ?
Troisième séance. Quand Monsieur X se réveille, cette fois le docteur C est là, tout sourire.
On est peut-être sur une piste.
À un moment, sous pain total, le docteur C lui a proposé le mot « perdu ». Et là, il a répondu
« corné ».
Or, le mot « corné », hormis pour désigner une trompette, est très peu utilisé en langue française, sauf dans l'est de la France. Là-bas, ils disent « corné » pour désigner un sac en plastique. Ils disent « corné » comme d'autres disent « pochon ». Donc, Monsieur X pourrait être de l'est de la France. Premier indice. Et un peu plus tard, le docteur a proposé le mot « amitié ». Et là, Monsieur X a répondu
« Charles-Élie ».
Et des Charles-Élie, il n'y en a pas 36. Le docteur C a tout de suite pensé à Charles-Élie Couture. Le chanteur, vous savez, Charles-Élie Couture de Nancy. Alors le docteur C l'a appelé et il a accepté de passer pour voir s'il le reconnaît. La rencontre a lieu dans le bureau du docteur. Monsieur X entre dans la pièce. Il voit un homme de dos qui se retourne, qui le regarde pendant quelques secondes et qui lui sourit.
Ça alors ? Mais bien sûr que je te reconnais, grand con !
Le type le prend dans ses bras.
Je connais pas ton nom. Mais ton visage, oui. Je me souviens très bien. Très bien de toi. C'est bon. T'inquiète pas. T'existes.
Ils ont fait les 400 coups tous les deux aux Beaux-Arts de Nancy quand ils étaient plus jeunes. Ils ont picolé ensemble. Il n'y a plus qu'à fouiller dans les archives des Beaux-Arts de Nancy et on saura comment s'appelle Monsieur X. Ça fait 4 mois qu'il végète à l'hôpital de Sainte-Anne de Paris. Et un matin, le 12 octobre 1987, Monsieur X est en train de dessiner.
Jacques Michel ! Pose tes crayons, le docteur t'attend. C'est moi, Jacques Michel ? Viens !
Il se précipite dans le bureau du médecin.
Bien. Tu t'appelles Jacques Michel Huret. Et, je te présente tes parents. Et ta femme Martine. On t'a retrouvé, mon vieux.
Sauf qu'il ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas, l'écran noir. Il voit bien leur regard plein de tendresse, mais lui, il ressent rien. Rien. Je sens l'angoisse monter. Je m'interdis de faire une crise devant eux, de peur qu'ils me laissent là, comme un chien au chenil. Je dois tenir le coup. Le couple âgé se lève, se dirige vers moi. Je n'ai pas le temps de vérifier si les traits de leur visage ressemblent aux miens. Leurs bras m'enlacent déjà. La jeune femme n'a pas bougé. Elle est belle. Vraiment. Elle me prend la main et elle dépose un baiser sur ma joue. Et sa femme lui montre alors des photos.
Regarde là. Ça, c'est notre mariage. Et là, c'est ta fille Sandrine. Et là, ton fils Pierre-Henri. Tiens, regarde là. Ça, c'est ton frère, ton père. Et là, c'est ta mère.
Il ne reconnaît personne. Aujourd'hui, on m'a retrouvé et je ne me suis jamais senti aussi paumé. Jacques-Michel Huret quitte Sainte-Anne 3 semaines plus tard. Il a passé tout ce temps à regarder les photos. Rien n'est remonté à la surface. Alors quand il quitte l'hôpital, c'est en quelque sorte un nouveau-né. Un nouveau-né de 122 jours. Qui serait né place de l'Opéra, à Paris. Et qui va devoir tout réapprendre. Et le voilà donc dans un appartement qu'il ne connaît pas, avec une femme qu'il ne connaît pas, et qui lui fait la visite.
Regarde ce meuble. C'est toi qui l'as fabriqué. T'es très bricoleur, tu sais.
À un moment, Martine s'absente. Elle va chez les voisins, et elle revient avec un petit truc qui chouine. Un petit garçon, rose et joufflu. C'est Pierre-Henri. C'est son fils d'un an. Deux nouveau-nés face à face. Le lendemain, ses parents viennent le chercher.
Demain matin, tu vas venir vivre chez nous, dans la maison de ton enfance, à Séchamps, dans la banlieue de Nancy. On va bien s'occuper de toi. Puis il y aura ta fille, Sandrine, elle sera avec nous.
L'idée est de réveiller ses souvenirs en retrouvant les lieux de son enfance. Et le voilà donc face à son père, dans ce pavillon des années 60 où on lui dit qu'il a grandi.
Ta mère est allée chercher Sandrine, ta fille. Surtout, tu ne lui fais pas peur. Hein? Tu la laisses venir vers toi. Tu verras, elle est très douce, mais tu ne lui dis pas que tu ne la reconnais pas. Tu lui dis « Bonjour ma puce !» Enfin, tu fais comme un papa, quoi.
Il est énervé. Je crois que je l'énerve. Qui est cet homme qui me fait honte? Et là arrive la petite Sandrine, qui sans doute ne voit aucun amour dans les yeux de son père. Elle ne l'embrasse pas. Il s'approche pour lui donner un baiser. Elle a un mouvement de recul. Jacques-Michel voudrait aller se promener en ville. Interdit.
Et si tu rencontres quelqu'un que tu connais, que tu reconnais pas, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Tu sais, le mieux, c'est que tu racontes pas que t'es amnésique. Tu ne parles pas de l'hôpital psychiatrique, surtout. On va dire que t'étais dans une maison de repos après une dépression, voilà tout.
Les jours qui suivent, on le torture avec les photos, plusieurs fois par jour.
Regarde là, ça c'est toi qui montes à cheval. Là, c'est papa, et c'est toi sur le chemin de l'école. Ici, c'est ton frère dans la piscine. Ça te revient? Ben non. Oh, on était si bien avant. Redeviens celui que t'étais, s'il te plaît. On pourrait retrouver tout ça si tu le voulais.
Je me sens prisonnier dans cette maison où, jour après jour, je ne fais que décevoir mes nouveaux patrons. Mes parents sont en train de me détruire à petit feu. Je ne sens rien de positif qui va se produire ici. Et donc, il veut vivre avec sa femme Martine et avec leurs deux enfants. Et les parents acceptent, à condition de trouver une maison près de chez eux. Et là, tout change. Martine lui laisse prendre ses marques. Elle ne le soumet pas à des interrogatoires. Elle lui montre les choses sans lui demander tout le temps s'il se souvient. Elle le prend comme il est, instable et cassé. Je suis son mari. Je ne suis pas une maladie. Elle ne veut pas poursuivre notre histoire. Elle veut la recommencer du début avec tendresse et patience. Et le soir, il se retrouve dans la chambre. Et lui, il a envie de baiser, comme il dit. Mais il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment faire. Elle se lève. Elle caresse mon visage, elle m'embrasse, elle dit « Enlace-moi », elle dit « Caresse-moi, nous avons fait l'amour des premières fois ». Jusqu'ici, Jacques-Michel n'a pas cherché à savoir ce qui s'était passé, comment il a pris ce coup sur la tête, comment il a disparu. Le déclic a lieu la veille de Noël. Ça fait un mois et demi qu'il est sorti de l'hôpital.
Dis Martine, parle-moi de nous.
Alors elle lui raconte. Ils se sont connus durant l'été 80, dans une discothèque. Lui, dessinateur et fêtard, et elle, ouvrière dans une usine de chocolat. Mariage, enfant, maison, 7 années de bonheur. Jusqu'au 25 juin 1987. Ce soir-là, il n'est pas rentré.
J'ai pleuré pendant 48 heures devant le téléphone. J'avais nos deux petits sur les genoux. Tes amis, tes parents ont arpenté la ville pour te retrouver.
Les gendarmes ont lancé un avis de recherche. Ils ont organisé une battue en forêt, envoyé des plongeurs fouiller la Moselle.
Tu sais, les gens disaient que tu t'étais fait la malle en laissant femme et enfant derrière toi.
Et cette nouvelle vie va s'accrocher à une envie. Une envie qui le fait s'enfermer tous les jours pendant des heures dans le garage devenu son atelier. L'envie de peindre. Et assez vite, il expose. Et ça plaît, figurez-vous. Et il se met à vendre des toiles. Et il donne des interviews. Et un jour, son père, qui est par ailleurs directeur de l'URSSAF, lui dit
« T'as pas le droit de faire tout ça. T'es en arrêt maladie, tu comprends ? Tu dois rester chez toi, tu dois te reposer, rester chez toi. »
Et comme par hasard, le lendemain, Jacques Michel se retrouve convoqué par le médecin de la sécu.
Vous êtes en arrêt maladie. C'est une période pour vous recomposer, pas pour travailler. Alors vous faites un choix, soit la peinture, soit vos droits à la maladie.
Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous raconter toute la suite. Au bout de 3 ans, effectivement, la sécu lui coupe les vivres. Et Jacques Michel doit s'inscrire au chômage. On arrête aussi ses ordonnances de Valium qui calmaient ses angoisses. Tant pis, il se fait de fausses ordonnances pour en avoir quand même. Un bébé né, une petite fille, leur 3e enfant, Emmanuel. Et puis un jour, au cours d'un rendez-vous à la NPE, il est question de retravailler.
Quels sont vos diplômes ?
Ah, aucune idée. Je suis amnésique dans ma nouvelle vie, j'ai jamais travaillé.
Oui, mais avant votre amnésie, vous faisiez quoi ?
Quel intérêt, puisque je saurais pas le refaire.
Bon, apportez-moi votre dossier professionnel et nous ferons le point demain.
Il y a effectivement un dossier à la maison, des diplômes et des fiches de paye. Le lendemain, la conseillère le regarde.
Bien. Je vois que vous êtes architecte spécialisé dans la rénovation des bâtiments historiques. Et ça tombe bien, j'ai du boulot pour vous, à Bâle, en Suisse.
Et le voilà donc parti pour son entretien d'embauche. Une tour de verre de 6 étages avec vue sur les montagnes suisses. Et un certain monsieur Van der Scher qui l'accueille.
Bonjour monsieur Huret, je suis content de vous voir. On a besoin d'un architecte français pour s'attaquer au marché des monuments historiques en France. 5 000 francs suisses tous les mois. Ça vous va ?
Ah, parfait, je travaille sur quoi ?
La rénovation de l'ancienne préfecture de Moutier. Va fêter ça avec ta femme. On se revoit demain.
Il est embauché. Sauf qu'il ne se souvient de rien de son métier. Le patron déroule le plan de l'ancienne préfecture de Moutier.
Alors, comment tu vois les choses, Jacques Michel ?
Et la miracle, ça lui revient d'un coup.
Bah écoutez, d'après ce que je vois, les arbalétriers sont en parfait état. Enfin, faudra rajouter quelques contre-arcs pour équilibrer les arcs ici et là. Faut remplacer les corniches, les goussets sont trop détériorés, mais les voûtins et la menuiserie sont récupérables. Je crois que je peux lui redonner son histoire.
Voilà. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute la suite, c'est long, une vie. Le livre de Jacques Michel se termine par cette phrase étonnante. J'ai envie de te remercier, toi, qui un soir m'a flanqué un coup sur la tête. Tu m'as volé 30 ans de souvenirs, mais tu m'as offert une autre chance, celle de devenir un homme dont Martine me répète tous les jours qu'il est bien mieux que celui qu'elle avait épousé. Et ils sont là tous les deux, avec moi, Jacques Michel et Martine. Pardon d'avoir zappé quelques épisodes de votre nouvelle vie. Tous ceux qui voudront en savoir plus achèteront tout simplement votre livre qui est toujours disponible sur Internet. Est-ce que c'est vrai, Martine ? Toujours vrai ?
Oui.
Que le nouveau Jacques Michel est mieux que le précédent ?
Oui, c'est vrai, oui. Ah oui, parce qu'à un moment, quand je l'ai connu, il n'était pas comme ça.
C'était un osseur.
Oui. Et puis en plus, il aimait bien faire la fête.
Sortir avec les copains.
Voilà.
Rentrer tard.
Tout à fait.
Ouais.
Et puis je me suis dit, bon, tant qu'il revient, même si c'est une heure, minuit, ça m'est égal, parce que je sais qu'on était toujours amoureux l'un et l'autre. Donc je vais lui laisser pas mal de liberté là-dessus.
Ouais. Et le nouveau Michel n'est pas du tout comme ça?
Non, non, il est...
Casanier.
Il est autrement, il est beaucoup plus ouvert, il va vers les personnes, discute avec. Et moi, c'est un plaisir de le voir, même réconforter les personnes.
Ça Est-ce qu'il vous est arrivé de penser, Martine, que vous seriez peut-être séparée de l'ancien Michel?
Non, je n'ai jamais pensé.
Bon. Jacques Michel. Alors aujourd'hui, Jacques Michel, ça fait 30 ans que tout ça vous est arrivé. Votre deuxième vie, au fond, a duré autant que votre première vie.
C'est pour ça que je suis encore très très jeune.
Vous avez à peine 30 ans.
Voilà, et j'ai la chance d'avoir la même femme que celle que j'avais avant. Je l'ai épousée deux fois.
Mmh.
Ah ouais.
Vous faites quoi dans la vie aujourd'hui?
Je suis maîtreur, c'est-à-dire que je m'occupe pour un pavillonnaire de faire la construction, de recevoir les gens pour faire leur choix. Mmh. Donc je construis des maisons pour les gens.
Alors je viens de citer les mots que vous adressez à la fin de votre livre à celui qui vous a donné ce coup sur la tête. Vous ne dites pas grand-chose dans le livre là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en juin 1987 qui a effacé votre mémoire? Vous avez donc reçu un coup.
Une enquête de police qui s'est passée plusieurs années plus tard a réussi à retrouver mon agresseur. Je me serais fait simplement agresser en rentrant la voiture au garage. Oui. Martine m'avait dit, donc c'est toutes des choses que Martine m'a raconté tout ça, hein. Martine m'aurait dit, les enfants vont aller au lit, le film va commencer, rentre la voiture, on était dans un lotissement où les maisons n'étaient pas terminées, il y avait danger pour la voiture. Et apparemment, j'étais très mauvais conducteur, parce que Martine ne m'a pas revu, elle ne m'a retrouvé que 122 jours plus tard.
Mmh.
Et c'est l'enquête de police qui a pu définir que je me serais fait agresser donc devant chez moi. L'agresseur a été retrouvé après, sur une agression similaire et à peu près sur le même lieu géographique.
D'accord.
Il m'aurait mis apparemment dans la voiture pour m'emmener plus loin. Alors de là, ce qui m'emmène de Metz à Paris... 400 km dans le coffre.
Et oui, parce que vous vous retrouvez à l'opéra quand même.
Je me retrouve sur l'opéra, 3 jours plus tard.
Ouais.
Et ces 3 jours-là, c'est vraiment le blackout total. Je ne sais rien du tout, je ne sais pas comment j'ai été là-bas. On oserait supposer qu'il m'aurait déposé un peu plus loin que chez moi, peut-être pour pas que je retourne justement porter, crier au secours, appeler la police, etc., qu'il puisse s'en aller. Après, comment j'ai fait ce chemin, peut-être en autostop, peut-être en train, aucune idée. Personne ne le sait, personne ne le saura jamais.
C'était important qu'on retrouve celui qui... Vous avez fait ça qui a bouleversé votre vie. Il ne savait évidemment pas à quel point.
C'est pas quelque chose que j'ai recherché, mais c'est quelque chose qui était, à mon avis, très important pour moi, parce que tant que je ne savais pas ce qui m'est arrivé, je me suspectais moi-même.
Est-ce
que c'était moi qui m'étais blessé, peut-être volontairement, par un probable suicide, pourquoi pas, une tentative de suicide qui n'a pas marché. Je ne pouvais pas savoir tout ça. Est-ce que c'est moi qui ai fait abstraction de toute cette vie parce que je voulais en recommencer une autre? Je ne savais pas. Donc je me culpabilisais. Donc le fait que l'on retrouve cet agresseur, pour moi, ça a été utile. Ça a été, je n'étais plus mon propre agresseur.
Et vous, Martine?
Oui.
Est-ce que c'était utile d'avoir la résolution de ce problème? C'est-à-dire qu'on retrouve ce moment où tout bascule?
Oui, ah oui, oui. Oui, parce que j'avais appris que dans le lotissement où on habitait, il y avait une femme qui s'est fait agresser. Et elle, par contre, elle avait vraiment reçu un bon coup sur la tête énorme. Que elle est devenue, comment dire, elle a perdu la mémoire, mais elle est devenue folle.
Ah, il y a eu deux victimes.
Oui, 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 oui.
Du même agresseur.
Oui, oui.
Qui a provoqué les mêmes symptômes.
On a su beaucoup plus tard ça.
Il faut qu'on revienne sur cet épisode qui a permis de retrouver votre famille, de vous redonner une identité. Cet interrogatoire que vous a fait subir un psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne sous un produit qui s'appelle le pain total, qu'on appelle le sérum de vérité, dont j'avais entendu parler, pour dire les choses franchement, dans les bandes dessinées et les fictions américaines, qui était donc utilisé en France à cette époque-là. C'est toujours autorisé d'utiliser du pain total?
C'est strictement interdit maintenant comme produit.
Ouais.
C'est un produit qui avait été utilisé dans un premier temps en temps de guerre, hein, pour faire parler justement les prisonniers de guerre.
Ouais.
Et il se trouve que celui qui a inventé le pain total est mort il y a 2 ou 3 ans.
Ouais.
Et le pain total est mort avec lui. Donc heureusement, c'est quand même... Enfin heureusement, moi j'ai eu la chance d'avoir des effets qui ont été bénéfiques, mais qui auraient pu me cramer le cerveau. Mais moi, mon cerveau était tellement cramé, je voulais bien utiliser ce grippin, quoi. C'était pas important pour moi. C'est grâce à l'intelligence du médecin, et certainement à l'intelligence de ses questions, qui ont entraîné certains indices, hein, comme patin, cornet, mon accent qui est plus lorrain que celui que parigot, Le fait que je savais peindre, il l'avait repéré aussi. Que j'avais fait des études supérieures parce que j'étais pas couillon complètement. Donc tout ça, c'est tous des indices qu'il a mis les uns au bout des autres. Et également, donc réponse, question-réponse, etc. Sur lesquels j'ai prononcé un prénom qui pouvait faire penser à celui de Charles Ellie. J'aurais été dans la merde la plus totale si j'avais dit Christophe. Hein, il y en avait trop. Hein.
Restons sur le pain total. Vous avez eu l'occasion d'en reparler avec ce psychiatre, puisque déjà en 1987, l'usage de cette méthode était controversé. Tous les psychiatres n'auraient pas utilisé cette méthode, ça c'est certain.
Ils ont estimé qu'il fallait aller plus loin dans cette recherche, parce que tout ce qu'ils faisaient comme process, qui était un process normal au niveau des institutions psychiatriques, ne fonctionnait pas pour moi. Rien ne fonctionnait. Donc il a tenté le tout pour le tout. J'étais X, apparemment, j'étais complètement brûlé de la tête, il ne risquait pas grand-chose. Il a dit, on va tout faire pour. C'est comme greffer faire une première greffe de bras à quelqu'un qui a perdu son bras.
Ouais.
C'est controversé aussi.
Ouais.
Pourtant, on le tente. Il y en a qui ont avec qui ça a marché, et d'autres qui ont demandé qu'on leur enlève carrément leur bras, qui n'était pas le leur. Moi, j'ai eu la chance de retrouver, non pas mon identité, mais ma famille, un morceau de moi quand même.
Alors, Charles-Élie Couture, pourquoi est-ce que, quand il prononce le mot amitié, vous dites Charles-Élie? Était-il un grand ami ou pas vraiment?
Eh ben, c'était pas réellement un grand ami, mais il est devenu depuis, parce que il a même eu la gentillesse d'écrire une chanson pour moi, qui se nomme « Il y a quelqu'un à l'intérieur de moi ». Mais je pense que dans cette succession de questions, quand il a dit famille, j'ai peut-être dit Martine, j'ai peut-être dit Pierre-Henri, j'ai peut-être dit Sandrine, mais ce sont des prénoms comme Christophe qui sont tellement courants qu'ils
ne
fait pas avancer les choses.
Ouais.
Donc c'est le fait que je connaisse quelqu'un avec un prénom atypique qui a eu en plus de ça la gentillesse de se déplacer en disant mais ce qu'il a dit au médecin, c'était assez marrant, ça on me l'a répété après. Il me dit quand on m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un mec complètement zoné qui ne se souvenait de rien si ce n'est que de mon nom Charles-Élie. Il dit un mec zoné qui se souvient de moi, moi qui ne me suis jamais fait, moi qui ai plusieurs vies en une, moi qui n'ai jamais su qui j'étais réellement. J'arrive, Doc. Et il est venu tout de suite.
Alors au bout de 4 mois, donc on identifie votre famille, ils sont là devant vous, vous racontez extrêmement bien tout ce que vous ressentez à ce moment-là, le désarroi qui est le vôtre. Et d'ailleurs à ce moment-là, on se dit, ça y est, on commence à comprendre pourquoi il le shoote aux médicaments. Il est dévoré par les angoisses et ça ne va pas s'arranger. C'est un moment extrêmement difficile.
C'était un moment extrêmement difficile où on me présente des gens en me disant ce sont tes parents, je suis maman, je suis papa. Puis heureusement une belle petite brunette. Mais le couple de personnes âgées, je faisais que lire dans les yeux d'étrangers. Je regarde Martine par désespoir et c'était de nouveau une étrangère. Et dans mon cœur, le problème c'est qu'il y avait rien. Je ne ressentais rien, si ce n'est que en disant si c'est ma femme, waouh, j'ai bon goût.
Pas de regret.
Voilà, pas de regret de ce côté-là. Je suis prêt à y aller, là. C'est bon.
Mais vous, Martine, on ne sait pas ce que vous ressentez à ce moment-là.
Eh bien, quand je suis arrivée avec mes beaux-parents à l'hôpital Sainte-Anne, et c'est vrai que quand il a franchi la porte, déjà, je ne l'avais pas reconnu. On l'avait gavé de médicaments, donc il était gonflé, mais alors de partout. Je dis, mais j'ai du mal aussi, moi, à le reconnaître. Et puis tout compte fait, après, il m'a regardé, mais dans le vide, alors moi, je me suis approchée. Je lui ai pris la main et c'est là que je lui ai donné un baiser sur la joue. Mais il n'y avait aucune réaction.
On vous a expliqué quelle conduite il fallait tenir ou bien on vous a laissé vous débrouiller avec ça?
Ah non, on a vu le docteur qui nous a dit voilà qu'il ne fallait pas le brusquer, qu'il avait perdu la mémoire et qu'il fallait aller tout doucement. Mais moi, quand je l'ai vu, je ne pouvais pas m'empêcher... de le prendre par la main, de lui faire un baiser sur la joue. Il avait aucune réaction, mais pour moi, j'étais vraiment contente de le retrouver.
Le moment des retrouvailles est très bouleversant. Et là, il y a deux attitudes différentes. Il y a l'attitude de vos parents qui ne vont pas arrêter de vous dire « Mais tu te souviens, mais tu te souviens, mais souviens-toi » et l'attitude de Martine qui, elle, au fond, assume que vous ne vous souveniez de rien. Et vous reprend à zéro. C'est vraiment deux attitudes de personnes qui ont été prévenues de la même manière de ce qui vous arrivait.
C'est vrai que c'est bon. Je vais recaser donc au moment là, donc où je ne comprenais pas l'attitude de mes parents. En réalité, j'étais un grand malade. on me proposait une vie qui n'était pas la mienne, qui était la leur, qui était peut-être la mienne avant, mais qui était récitée. On me récitait ma vie comme un livre, comme une lecture de livre. Donc on essayait de me donner une mémoire livresque. Et c'était pas mes sentiments qui parlaient, c'était uniquement le sentiment des jaunes. On me disait, souviens-toi, on me montrait des photos en me disant, c'est toi petit, c'est toi machin. Alors ça, c'était encore plus dur. Il fallait que je me reconnaisse, moi et mes proches, avec des têtes différentes. C'est-à-dire non seulement il fallait que je me fasse à la personne qui était en face de moi, avec l'âge qu'il avait, mais il fallait que je le reconnaisse quand j'avais 2 ans sur ses genoux, quand elle en avait 25. Et c'était toujours ma mère. Donc c'était plusieurs visages. Une personne dans la vie a plusieurs visages. Et plusieurs façons de penser, la preuve. Maintenant, je sais pourquoi je ne l'acceptais pas. J'acceptais pas par rapport à ça. Je ne voulais pas être reconstruit par obligation et par les autres. Si je devais être reconstruit, c'était par moi-même. Ça devait m'arriver. Ça va m'arriver. Il y aura un déclic. Le déclic des petites madeleines, par un bruit, par un son, par une odeur. Comme le dit Sylvia Proust. C'est le déclic des petites madeleines. Le déclic des petites madeleines, ils voulaient pas l'attendre, ces gens-là. Ils voulaient que ça vienne d'eux. Ils voulaient être peut-être même eux, la petite madeleine. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter.
Vous avez des mots très durs. Pour vos parents. Oui. Très dur. Oui. Quand vous les relisez aujourd'hui, ils sont décédés. Oui. Peut-être auriez-vous voulu effacer ces passages-là du livre?
Je ne pense pas, parce que j'avais hésité justement à les écrire, mais je ne crois que dans une reconstruction, il faut montrer qu'elle est difficile. Il faut montrer que l'on n'est pas forcément non plus ça facile, que l'on ne comprend pas les autres. Ce qui était le cas, je voulais simplement qu'on me comprenne moi. J'avais pas envie de comprendre les autres. J'avais rien à voir. J'étais handicapé moi, c'était moi le malade. Mais j'avais handicapé les autres, je m'en rendais pas compte. Et oui, je leur en voulais énormément. Je leur en voulais, je sentais que c'était comme une agression. Donc je ne regrette pas les mots que j'ai dit, puisque je les dis quand je devais les dire, parce que j'avais pas autre chose. Aujourd'hui, je dirais les choses différemment, bien entendu.
Votre père a honte de ce qui vous arrive, vis-à-vis des voisins, des gens du village, de tous les gens que vous pourriez rencontrer. Il vous dit, on n'a qu'à dire que t'as fait une dépression, que tu sors d'une maison de repos. Il a honte.
Oui.
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 Et du coup, Martine, vous, votre position, vous l'avez construite contre vos beaux-parents.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Vous avez vu qu'ils étaient à côté de la plaque.
Oui, moi, au départ, j'étais aussi, je l'ai harcelé en disant, tu vois, l'endroit là, tu vois, on a été danser, tu vois, la maison où on habitait, tout. Il disait tout le temps non, je reconnais pas. Alors moi, ça m'énervait. Puis après, j'ai dit, mettons, on va laisser de côté le passé, puis on va aller de l'avant. Et puis voilà, parce que ça m'énervait aussi. Je me faisais du mal aussi.
Quand est-ce que vous réalisez que il ne se souviendra pas de ses 30 ans et que donc il faut recommencer une nouvelle histoire, écrire une page totalement blanche?
Je le sentais, il était nerveux. Dans toutes les questions que je lui disais, il s'énervait. Et puis je me suis dit, ben voilà, j'ai commencé à me dire, voilà, je veux le rendre heureux, hein. Et quand je lui ai dit, ben regarde-moi dans les yeux, je vois qu'il y a de l'amour. Comme je sais qu'il n'avait pas, il avait assisté à l'accouchement de Sandrine et puis de Pierre-Henri. Et puis je me suis dit, bon, il connaissait pas tout ça, alors je lui ai dit, on va
en faire un troisième.
Ah ben voilà, tout à fait.
Alors c'est l'occasion de parler des enfants. Moi j'ai trouvé évidemment très intéressant, parce que vous avez tout l'échantillonnage. Sandrine, elle vous a connu, elle a une mémoire de vous dans l'ancienne vie. Pierre-Henri, il a 1 an, il n'a aucun souvenir de vous, donc vous pouvez commencer assez aisément une nouvelle histoire avec lui. Et alors Emmanuel, avec elle vous pouvez carrément écrire la page blanche, puisque elle n'a pas d'histoire dans votre ancienne vie. Est-ce que ça a été plus facile avec Emmanuel et Pierre-Henri qu'avec Sandrine?
Ça a été beaucoup plus simple, bien entendu, avec Emmanuel. Emmanuel, c'était mon enfant. C'était mon enfant. Les deux autres, comme je le dis, et maintenant, on peut aimer les enfants adoptés comme ses propres enfants,
mais
malheureusement, j'ai adopté mes deux premiers enfants, oui. Dans mon cœur, oui. Ils venaient de mon autre vie qui n'était pas moi, qui n'est toujours pas moi, d'ailleurs. Sandrine en a souffert, effectivement, parce qu'elle était en âge de comprendre les choses, de voir la problématique, que papa était pas bien. Et elle a souffert également que papa, il devait se taire, et papa, il devait se tenir à carreau comme un enfant. J'étais plus dans une position de père, j'étais ramené comme un enfant. Et je pense que Sandrine s'en est rendue compte, donc il n'y a pas eu non plus le respect du père, l'approche entre une fille et un père. Ça, je crois que je l'ai perdu complètement. Ensuite, Pierre-Henri, un petit gamin d'un an et demi.
Oui.
On dit il est petit, jamais il en souffrira. Ouais, on verra bien après.
Et si,
parce que il m'a fallu tellement de temps pour me reconstruire. Il m'a fallu plus de 6 ans ou 7 ans pour me reconstruire. Avant de penser aux autres plutôt que de penser à moi. Pour moi, c'était moi. C'était moi l'handicapé. Je voyais pas que je ne donnais pas d'amour à ceux qui voulaient, qui m'en donnaient. Et j'ai handicapé mon entourage. Et j'ai handicapé mon fils. Et j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de lui demander pardon à ce niveau-là. Parce qu'il a quand même des petits problèmes dans sa vie. Il m'a dit à un moment donné, papa, oui j'ai des problèmes, mais tu es peut-être pour quelque chose.
Ouais.
Hein? Et j'étais sauvé par rapport à Emmanuel, la petite dernière, celle que l'on a refait quand je me suis aperçu que j'étais pas amnésique de partout. C'est elle avec qui je faisais donc une autre vie, une autre histoire, et c'est elle qui m'a dit, mais papa, tu es celui que tu es maintenant et celui que tu étais avant, et ça, tu n'en parles pas trop, j'ai entendu dire que, mais il faut en parler, ça fait partie de ta vie, et moi je veux le savoir. Et c'est elle qui a tout fait pour que j'en parle. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est transformé en livre, etc., etc. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je peux partager avec beaucoup de personnes.
Une dernière question, parce qu'on est au bout de cette émission. Est-ce qu'un jour, ça peut revenir, encore aujourd'hui, à n'importe quel moment, là, maintenant?
Ça y est, je me souviens.
Non, mais...
Non, alors...
Techniquement, ils vous disent quoi?
Le professeur Francis Eustache m'a dit simplement que, malheureusement, mon trouble est tellement profond... Et heureusement très rare, parce qu'il y aurait que 3 ou 4 cas au monde comme moi. Donc tant mieux. Je remercie mon Dieu à ce niveau-là, parce que c'est très dur à porter, c'est très dur à vivre. Mais il est certain que c'est tellement enfui que c'est irrémédiable. Mmh. Et le fait est que même, comme il me dit, même si tu avais une petite réminiscence de ton avenir, de ton passé. Mmh. Il me dit, on t'a tellement réappris ta vie avec des souvenirs qui sont devenus livresques. Je dis toujours, quand on lit un livre comme Le Grand Maulne, on imagine Le Grand Maulne, on imagine même sa chambre à coucher.
On n'a pas envie de le voir.
On n'a peut-être pas envie de le voir.
Merci à tous les deux, merci infiniment d'être venus participer à ce récit et commenter ce récit qu'on retrouve donc dans un livre de Michel Lafon, disponible sur internet, qui s'appelle « J'ai oublié 30 ans de ma vie ».
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.